Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Enlève ta veste, regarde ici dans la caméra. Bon, t'as le droit de faire un appel, puis ici on a une liste des avocats pour la jeunesse.
Non, merci.
Mais tu devrais appeler tes parents au moins, hein, si tu veux que quelqu'un assiste à ton interrogatoire.
T'as enfreint la loi pour ton frère.
Ouais, juste un.
Tu veux aider un petit criminel à gravir les échelons du crime organisé, c'est ça? Tu sacrifies ta liberté pour lui.
Je suis solidaire de ma famille.
Peu importe ce que tes frères ont fait.
Tu t'embarques dans quelque chose de pas mal plus gros que tu penses, ma petite fille.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux rapports souvent étroits qu'entretiennent l'histoire et le cinéma. Nous aborderons différents films récemment sortis en Blu-ray et DVD. Parmi ceux-ci, Jeanne d'Arc de Gustave Husicki, disponible chez Artus Film. Un film de propagande nazie qui ne plaisait pas à Hitler. Et nous aborderons également Antoine et Cléopâtre, sorti chez Rimini, un péplum intéressant car réalisé et interprété par une icône de la droite réactionnaire Charlton Heston. Nous aborderons également Soy Kuba de Mikhail Kalatozov, édité par Potemkin, et le coffret réunissant les œuvres de jeunesse de Miloš Forman, signé Carlotta, soit deux points de vue, on va dire, divergents sur le communisme à la Staline. Enfin, deux œuvres plus récentes qui éclairent de nombreux débats agitant actuellement notre hexagone. Petit pays d'Éric Barbier, sorti chez Pathé, d'après Gaël Faye, hein, concours des lycéens en 2016, qui est disponible au livre de poche, ça c'est pour ceux qui sont complétistes, et dans lequel il est question du génocide rwandais, et Antigone, de Sophie Desrapes, qui n'est pas un film français, qui est un film canadien, qui est paru chez les Alchimistes Films, dans lequel il est question d'immigration et de bavure policière, sujet d'actualité, j'ai envie de dire, un peu dans le monde entier, actuellement. Pour causer lien entre histoire et cinéma, je suis aujourd'hui accompagné de mes chroniqueurs historiques, eh oui, à savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, c'est un peu le Alain Decaux de notre émission, voilà, en plus jeune, je vous rassure. Alors, c'est un Alain Decaux qui se transformerait chaque nuit de pleine lune en loup-garou Picard. Vous avez deviné, je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui enregistre régulièrement à l'écoute du cinéma qui est diffusé sur RCA et qu'on vous invite à écouter. Bonjour Thomas.
Bonjour Damien, bonjour Gégé et bien évidemment bonjour à toutes.
Les amis, je vais démarrer cette émission par un réalisateur, le temps d'un seul film d'ailleurs, mais un acteur biblique. Voilà, vous avez deviné de qui je veux parler. Je veux bien sûr parler de Charlton Heston. Eh oui, Charlton Heston, les 10 commandements, Ben-Hur. Eh oui, ça rigole pas, c'est Charlton Heston. Immense acteur américain, hein, parce que ses errements politiques ne doivent pas faire oublier l'immense acteur qu'il était. Ceux qui l'ont vu dans Soleil Vert se rappellent de sa prestation avec émotion. Ou sont encore ceux qui l'ont vu dans La planète des singes de Franklin G. Schaffner. Les amateurs de fantastique, de SF, savent qu'il a tourné quand même dans des films passionnants. Ce qu'on sait moins, c'est que Charlton Heston a réalisé un film, voilà, qui a été un film qui a été énormément critiqué, qui a été voué aux gémonies dès sa sortie, qui est Antoine et Cléopâtre. Un péplum de plus de 2h, 2h20, comme ça, qui est sorti en 72 et qui réunit donc dans les rôles-titres Charlton Heston et Hildegard Knell. Il y a aussi Eric Porter. Alors, ça se passe après la mort de Jules César. Marc-Antoine, qui est donc Charlton Heston, hérite d'une partie de l'Empire romain, dont l'Égypte, évidemment, et il tombe sous le charme de Cléopâtre. Et les affaires de l'État vont le rappeler à Rome. Et Marc-Antoine se marie avec la sœur de son rival Octave. Et Cléopâtre, elle n'aime pas du tout. Et elle va tout faire pour regagner le cœur du brave Charlton Marc-Antoine Heston. Voilà. Alors, là où le film est intéressant, c'est que... Alors déjà, il choisit une actrice qui est Hildegard Knell, qui est une belle femme, mais qui est loin de la représentation classique de Cléopâtre, femme sexy, tout ça, comme on a dans beaucoup de films, dévoreuse d'hommes et tout ça. Là, on a une Cléopâtre plus humaine, plus intéressante. Dans les seconds rôles, on a un Lépidus incarné par Ferland Doré, qui est aussi un personnage très, très, très intéressant, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Cléopâtre est un peu montré... il est montré d'une façon nettement plus moderne que dans les autres versions. Et ça peut même évoquer, par certains moments, la super série Rome, qui avait été arrêtée pour cause de décors qui avaient brûlé, je crois, quelque chose comme ça. Mais enfin, très, très, très bonne série Rome, qui donnait à voir une version, beaucoup moins... infantile de l'époque et beaucoup moins naïve. Et là, faut pas s'étonner parce que c'est la pièce de Shakespeare, vous avez reconnu Antoine et Cléopâtre. Et c'est surtout un scénario de Federico de Urrutia qui est un cinéaste, ma foi, assez intéressant. Un scénariste, ma foi, assez intéressant. Et la mise en scène de Charlton Heston sert bien, en fait... Le scénario écrit par celui qui a écrit, par exemple, celui du film de Baldi, un film de pirates, Les Pirates de l'île verte, qui a écrit aussi L'Appel de la forêt de Ken Anakin. Voilà. Heston, du coup, sert bien son scénario, mais surtout sert bien ses acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène assez classique, sans génie, par contre, faut bien le dire, mais assez classique, avec par moments des montées de violence très étonnantes. Il y a des scènes de combat qui sont très, très violentes. Il y a un moment, un bras arraché, il y a des choses comme ça. C'est assez étonnant. Et le film, en fait, là où il est aussi intéressant à analyser, c'est parce que c'est l'année où Charlton Heston, est passé de grande icône de gauche à icône de droite, en fait. Voilà, il n'est pas encore à l'époque pro-life et à la NRA, comme il le deviendra ensuite. À l'époque, il est passé par toutes les phases, du parti, par toutes les strates du Parti démocrate. Il a dirigé le syndicat des acteurs. Il a fait plusieurs mandats, d'ailleurs. C'est comme ça qu'il est devenu pote avec Ronald Reagan. Ronald Reagan qui avait aussi qui a joué un grand rôle aussi dans le syndicat des acteurs américains. Et c'est parce qu'il est pote avec Reagan qu'il va basculer justement du côté républicain. Et puis après qu'il va devenir totalement réac dans les dernières années de sa vie. Et c'est assez intéressant de voir ce film qui peut mettre tout ça en perspective. Parce que qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire peut-être que Heston, il rêvait d'autre chose. Et que quand il fait ce film, il rêve certainement pas de la volée de bois vert qu'il va se prendre. Il rêve peut-être d'une certaine reconnaissance. C'est une superstar quand même. Donc je pense qu'il s'attend pas du tout à se faire massacrer comme il s'est fait massacrer pour le film. De là à tirer des analyses un peu surinterprétées, à dire c'est comme ça qu'il s'est mis en vouloir à la terre entière, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un moment de basculement. Et à travers cet angle-là, regarder le film, du coup, prend un autre sens, puisque le film donne une vision quand même assez désabusée de l'âme humaine.
Now the flames, they follow Joan of Arc. As she came riding through the dark, no moon to keep her armor bright, no man to get her through this very smoky night. Said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Glad to hear you talk this way. You know, I've watched you riding every day, and something in me yearns to win such a cold and lonesome heroine. Sternly spoke to the one beneath the smoke. Why, I'm fire, he replied, and I love your solitude, I love your pride. La 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 la.
Nous étions avec Cléopâtre, alors on va continuer avec une autre femme historique qui, elle, ne jouit pas de la même réputation que Cléopâtre, hein, une réputation beaucoup plus chaste, voilà, puisque je vais bien sûr parler de Jeanne d'Arc. De Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc a été reprise à toutes les sauces, hein, on va dire ça comme ça, qui a été énormément adaptée au cinéma. Alors, pour le meilleur, évidemment, hein, en particulier, on va penser à Carl Theodor von Dreyer. Voilà. Et puis pour le pire, hein, on va penser à Luc Besson, par exemple. Voilà. Donc, elle a connu diverses adaptations, diverses interprétations, diverses réécritures aussi. Hein, Et en 1935, dans une Allemagne qui essayait un peu de s'acheter une bonne conduite avec un Adolf Hitler chancelier, on essaye de produire des films pour se donner un peu une bonne image, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Bon, Hitler n'a pas encore commencé réellement le pire à appliquer le pire de ses plans les plus dingues. Et Joseph Goebbels, hein, qui est à l'origine, enfin, de la reprise en main de la UFA, c'est-à-dire la société de production de cinéma allemande, qui trouvera en France d'ailleurs un équivalent avec la Continental, hein, que Goebbels va créer en France, ou la fameuse Continental dont on a déjà parlé dans l'émission, qui d'ailleurs est abordée dans le livret passionnant, parce que Jeanne d'Arc est sortie dans un très beau médiabook édité donc par Artus Film, et il y a un livret passionnant de David Didlot. Je ne savais pas que David était également historien, parce que franchement, il fait preuve d'une maîtrise du sujet qui m'a bluffé. Il a dû énormément se documenter, énormément travailler pour écrire ce livret qui est, on dirait, un travail d'historien. Voilà, c'est vraiment très, très bien, très complet, très intéressant. Et on apprend toutes ces choses-là. David nous parle un peu de tout ça, des conditions dans lesquelles le film a été réalisé, de l'époque. Voilà, bah, l'époque, on la connaît, hein, puisqu'on est, avant, peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale. Et l'Allemagne est, voilà, décide d'utiliser, donc, à travers la UEFA, donc, de produire un film autour de Jeanne d'Arc et d'utiliser la figure de Jeanne d'Arc en espérant que la jeunesse, en fait, s'identifie à cette jeune femme qui se bat contre le pouvoir, et en particulier qui se bat contre le pouvoir des Anglais et des Français qui sont présentés dans le film comme des dirigeants qui méprisent leur peuple, voilà, qui sont, et on sait après ce qui va se passer, hein, des relations avec, entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France vont être particulières, et surtout que bon, le film s'ouvre d'ailleurs par un carton, hein, qui sans détour, hein, évoque l'Allemagne diminuée des lendemains du traité de Versailles. Voilà, donc on est, voilà, la haine anti-français est là. Et en fait, d'ailleurs, le film, c'est un peu trompeur, n'est pas vraiment un film sur Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc, elle arrive au bout d'une demi-heure de film, en gros, quoi, à peu près, quoi, sur un film qui doit faire une petite heure et demie. Donc Jeanne d'Arc est un personnage qui arrive un peu plus tard. C'est plutôt Charles VII qui est mis en avant dans le film, hein, et qui va, alors bon, on rappelle, hein, l'histoire de Jeanne d'Arc quand même, hein, c'est la fin de la guerre de Cent Ans, la France va de défaite en défaite face aux Anglais, et seule la ville d'Orléans résiste, défendue par la Trémoille, Dunois et d'Alençon, et à Don Rémy en Lorraine, une jeune fille de 17 ans, Jeanne, entend la voix de l'archange Michel, qui lui dit d'aller retrouver le dauphin Charles, donc Charles VII, pour le faire couronner à Reims, et après le sacre, lui seul pourra bouter les Anglais hors de France. Eh oui. Et ça donne un film, ma foi, assez étrange, qui est réalisé par un mercenaire de la pellicule, hein, Gustav Uschicki, qui n'est pas du tout acquis au nazisme, forcément, mais qui voit là l'occasion de se faire mousser, de voir sa carrière passer à autre chose. Je crois qu'il est autrichien. Et voilà, il voit l'occasion de tourner un film fastueux. D'ailleurs, c'est un film qui est très beau. Il y a une photographie en clair-obscur de Günther Krampf, qui avait fait la photographie de Loulou, de Pabst, des Mains d'Orlac aussi. Il y a, les décors sont signés Walter Rohrig. C'est quand même le mec qui a fait les décors du Dernier des Hommes de Murnau, du Cabinet du docteur Caligari de Vineux. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux dans le cinéma allemand. Voilà, il reste quelque chose, ce grand cinéma expressionniste allemand. Il en reste quelques-uns qui ne sont pas encore enfuis aux États-Unis, voilà, et il reste de ça dans le film. Et puis le film est écrit, il faut le savoir, par Gérard Menzel, qui lui est un nazi. Hein, voilà, donc ça, il faut le savoir. Alors, le film essaye d'avancer un peu caché, hein, puisqu'on n'est pas encore. Les théories ariennes n'ont pas encore explosé totalement à la face du monde. Mais malgré tout, le film a un énorme défaut. Et quand je vous ai dit en introduction de l'émission que le film ne plaisait pas à Hitler, c'est surtout que son héroïne, Jeanne d'Arc, eh bien, la manière dont elle est filmée, la manière dont elle est mise en scène, on fait toute une héroïne bigote, une héroïne, en fait, on sacre une icône religieuse dans le film. Et pour Hitler, c'était inadmissible. D'ailleurs, le film va rester très peu de temps à l'affiche. Il était réputé perdu, ce qui est bête parce qu'il est artistiquement intéressant, hein. Et pour Hitler, c'était un film qui n'était pas acceptable, parce que chez les fascistes, chez les nazis, chez tous les dictateurs, il n'y a qu'une seule religion, c'est celle de l'État, et c'est l'État qui dirige tout. Donc Hitler ne pouvait pas cautionner ce film. Et donc ce film est un film qui avait été réputé perdu et que l'on redécouvre aujourd'hui grâce à Artus Film.
Některé ženské jsou oblí jako tak jako kytára.
To, co bylo včera, není každý den. A já potká jsem dínku, byla krásná jako sen. A já ji tak rád mám.
Oh, yeah, yeah, yeah.
A já ji tak rád mám.
Oh, yeah, yeah, yeah.
A z té velké lásky stál se ze mě chuligán. Se tam jí douška, krásně díky máš. Ona na to vole, vole, proč jí nelíbáš. A já ji tak rád mám.
Yeah.
A z té velké lásky stál se ze mě chuligán.
autre totalitarisme, j'ai envie de dire, le stalinisme, par exemple, pour employer un mot bien connu, qu'on confond souvent avec le communisme, d'ailleurs, illustré, on va dire, en filigrane, par un réalisateur très intéressant, puisque un de nos réalisateurs fétiches, même s'il est un peu moins culture prohibée, mais enfin qu'on aime beaucoup, c'est Miloš Forman, mon cher Thomas.
Oui, après le film flamboyant sur Jeanne d'Arc, on va parler de Miloš Forman, avec Au feu et les pompiers. Carlotta a la bonne idée de présenter en un seul coffret les quatre premiers films de Miloš Forman. Je crois qu'il y en a encore un avant.
Alors, il y en a cinq, puisqu'en fait, dans l'audition, il y a deux moyens métrages.
Alors, l'audition, oui, c'est deux courts-métrages. Et donc, après, il y a ces trois longs-métrages. L'As de pique, Les amours d'une blonde et Au feu les pompiers. Et on peut voir à travers ces quatre films, notamment, que Miloš Forman aime bien la musique. Il aime bien la musique, il aime bien les scènes de bal, il aime bien les scènes de foule. Il aime bien ça. Et il y a quelque chose qui revient souvent dans ses films, même dans ses films d'après, comme je pense à Taking Off, et particulièrement à Taking Off d'ailleurs, c'est le conflit de génération. C'est les jeunes qui veulent s'affranchir de leurs parents ou d'une certaine autorité parentale, qui n'est pas forcément leurs parents d'ailleurs. Mais tout du moins, il y a très clairement un conflit de génération, une sorte de passation d'idéologies différentes, où les jeunes veulent pouvoir vivre leur vie sans forcément suivre ce que leurs parents leur disent de faire, etc., etc. C'est particulièrement prégnant dans Les amours d'une blonde, je trouve. Dans ce film-là, on voit vraiment l'influence que veulent avoir justement les parents sur leur fils qui a rencontré cette jeune femme, à qui il raconte des conneries d'ailleurs, à qui il fait croire à la lune, etc., et qui, elle, quitte son internat, c'est une sorte d'internat où elle est couturière, une usine où il y a un internat, etc., où elle est couturière, et puis elle croit à ces histoires. Donc il y a aussi cette critique du patriarcat, bon, c'est très à la mode comme mot, mais il y a cette critique aussi du patriarcat, notamment dans Les amours d'une blonde, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Au feu les pompiers, avec ces vieux pompiers là qui organisent un bal et qui sont complètement libidineux. En plus, ils font quoi? Ils font passer un concours de Miss à des jeunes femmes, ils les convoquent dans leur bureau juste pour les mater, et ils sont complètement has-been, ils sont complètement à la ramasse, et ils se rendent pas compte du temps qui a passé et que les choses ont aussi évolué, que eux ne sont plus dans le coup, quoi. Donc ce sont des films aussi, surtout Au feu les pompiers est un film très drôle, très caustique. Et c'est son premier film en couleur aussi, d'ailleurs.
Ce sont surtout des films aussi où il y a un mélange particulier entre l'humour et la tristesse, quoi. C'est vraiment un ton particulier, Forman. C'est un immense metteur en scène. Je crois que c'est un des rares exemples de metteur en scène qui n'a jamais fait de mauvais film. À ma connaissance, je pense avoir vu tous ses films. Il n'a jamais fait de mauvais films. Tout ce qu'il a fait aux États-Unis, c'est excellent aussi. Alors, tout le monde le connaît pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, Amadeus, Man on the Moon, c'est génial. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment un grand metteur en scène. Larry Flint, qui est décédé il y a peu de temps d'ailleurs, qui a très bien aussi un très bon biopic. Puis faire des bons biopics, c'est quand même pas donné à tout le monde, parce que 9 fois sur 10, c'est quand même des films nazes, pour dire pas. Voilà. Et Forman, c'est à la fois un grand technicien, quelqu'un de très fin intellectuellement. Alors, Au feu les pompiers, c'est assez rigolo. Il faut savoir que ça a déclenché une grève générale des pompiers là-bas, enfin, qui voulaient. Ça a failli déclencher une grève générale des pompiers. Le film date juste avant 68. Et on sent poindre la révolution. C'est son dernier film d'ailleurs. Après, il s'en va, il quitte le pays parce qu'il n'est plus le bienvenu. Forman, quand même. Qui est dans la même classe, je crois, que Vaclav Havel, en plus. Enfin, je crois que c'est vraiment... C'est assez incroyable. Et en fait, tous ces vieux libidineux, en fait, c'est les staliniens, quoi. C'est l'État totalitaire communiste. Et évidemment que ça ne plaît pas du tout au pouvoir, ces films. Et que les gens vont voir ça au cinéma, en plus, nombreux, parce que ça les fait rire. Sauf que derrière, on se moque du régime en place.
Qui est incapable de prendre soin de la population, d'ailleurs. Qui est incapable de prendre en charge la population, de s'occuper d'elle, de régir la ville comme il faut, quoi. Et d'ailleurs, le film est produit par Carlo Ponti, et Carlo Ponti n'a pas du tout aimé.
Autre film, alors là, on peut le dire, de propagande communiste, même si, quand on lit bien entre les lignes, il y a certains moments où le réalisateur Mikhaïl Kalatozov se permet finement quelques petites critiques, finement, mais bon, bon, quand même, ce qu'on retient le plus, c'est le côté propagandiste, quand même. C'est le fameux Soy Kuba, un film de 1964, que Potemkin vient de ressortir dans une très belle copie. Et bon, c'est un film qui, alors, selon mon humble avis, contient parmi les plus beaux plans de l'histoire du cinéma. Il y a certains plans qui sont incroyables. C'est un véritable prodige. À l'époque où les caméras, quand même, pesaient le même poids que moi, à peu près, et où la Steadicam n'existait pas, quand même, faut le dire. Ce film, Thomas, bah, de quoi ça parle, Soy Kuba ? Ça parle de Cuba, ça parle de communisme. J'ai bien une petite idée, mais bon, je l'ai vu, alors je triche un peu. Mais bon, Thomas, dis-nous un peu, toi, ton sentiment sur ce Soy Kuba.
Soy Kuba, c'est la révolution cubaine. Voilà, c'est un film de propagande à travers la description de la révolution cubaine. Alors évidemment, il y a un parti pris évident. Mais bon, Mikhaïl Kalatozov, il s'en foutait un peu. Hein. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était du cinéma avec son directeur de la photo. Et donc, c'est un film qui est découpé en quatre parties. C'est un film à sketch, donc qui présente les méchants Américains qui viennent prennent du bon temps à Cuba, c'est-à-dire boire des coups dans des boîtes de luxe, puis partir s'amuser avec des prostituées, qui elles vivent dans des quartiers, dans des bidonvilles. Et la deuxième partie montre les paysans qui sont exploités par les méchants propriétaires, hein, les agriculteurs de canne à sucre, hein, les cultivateurs de canne à sucre qui sont vraiment exploités par les méchants propriétaires. La troisième partie présente de jeunes révolutionnaires qui veulent, qui prônent la révolution à la Havane, hein, en tractant ou même en voulant assassiner le chef de la police. Et la quatrième partie, c'est l'engagement dans la rébellion aux côtés de Fidel Castro et de Che Guevara. Bon, l'aspect propagandiste, hein, comme je le disais, Mikhaïl Kalatozov s'en tape un peu. Ce qu'il veut faire, lui, c'est du cinéma avec son directeur de la photo, Sergueï Ouroussevski. Alors, ils ont une théorie particulière, c'est la caméra, elle exprime les sentiments des personnages. Et effectivement, c'est une caméra très expressionniste, qui bouge beaucoup, qui décadre, qui fait des filets sans arrêt. La caméra, elle est sans arrêt en mouvement. Et c'est un film qui présente aussi beaucoup de plans-séquences. Mais alors des plans-séquences, mais hallucinants. Il y a des trucs, je ne sais pas comment ils font. Il y a une caméra, à un moment, elle passe dans une pièce. Elle suit toute la pièce, puis elle va dans la rue. Mais elle est quand même à 20 mètres du sol. Et je ne sais pas comment ils font ça. Elle filme la rue en étant à 20 mètres du sol. On voit la caméra avancer, on ne voit pas de rail. On la voit avancer dans le vide. Et je ne sais pas comment ils font ça. Et le film, c'est que des prouesses techniques comme ça. C'est du cinéma, quoi. Et donc, c'est un superbe noir et blanc, hein, avec une utilisation des décors incroyable. Notamment, je pense à la boîte de nuit où la caméra, elle bouge très vite, elle fait des filets très, très, très rapides, etc. Et ne serait-ce que le plan d'ouverture après le générique. La caméra passe d'étage en étage et puis elle se termine dans l'eau dans la piscine. C'est vraiment un film qui est pour l'époque, c'est vrai, qui est très étonnant au niveau de la technique, quoi. D'ailleurs, Martin Scorsese, c'est un de ses films préférés, hein. Et il dit que si le film avait eu plus de succès à l'époque, s'il avait été plus distribué, il aurait changé la face du cinéma.
Guajira, vámonos para La Habana, vámonos mi Guajira, arranca para la ciudad, a mí me gusta el guateque, y échale a mi gallo ron, la marca en el bajareque, y tu cintura,
Pablo, ven acá, Ana,
en el bajareque, y tu cintura, vámonos mi Guajira, vámonos para La Habana, vámonos mi Guajira, arranca pa' la ciudad, el vaivén de tu cintura, tiene mejor el sabor, tiene la pulpa madura, y el golpe de tu pilón, prepárate la montura, para montarte en el son.
Mira, Pancho, mira.
Смотри-ка, Панчо, смотри. Дети старого Педро.
Parece que la cosa anda bien.
Похоже, дела у них идут хорошо.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial histoire et cinéma.
C'est vrai qu'on insiste beaucoup dessus, mais les plans sont vraiment incroyables. Le plan séquence du début est impressionnant, vivant, opulent. Les mouvements de caméra sont absolument géniaux, ce qui donne des plans et une photographie tout aussi imprévisibles que majestueuses. Le film inonde aussi de musique, ce qui permet à la caméra de valser et de l'accompagner. Il y a vraiment aussi une opposition qui est justement bien montrée entre ce côté richesse colonisatrice qu'ont les Américains qui sont à Cuba et la pauvreté infligeante avec la question d'injustice et tout. Et ce qui est intéressant à travers les scénettes, c'est que d'une certaine façon, comme tu l'as dit Thomas, ça se suit, c'est-à-dire qu'au début, avec la première scène, on découvre plus ou moins l'injustice. La deuxième, on se rend compte que l'injustice, en fait, a touché les parents et aujourd'hui retombe sur les enfants. Dans la troisième, on voit justement le monde étudiant qui essaye de... qui bouillotte contre ça et qui complote. Et la quatrième scénette, c'est l'attaque des civils qui conduit à leur engagement, c'est-à-dire qu'ils sont bombardés et plus tard, ils rejoindront les forces de rébellion, ce qui est encore quelque chose qu'on a aujourd'hui. Et c'est un film qui est super bien monté, dont vraiment, on redit constamment, mais c'est vrai, les plans sont vraiment incroyables, c'est-à-dire que si ça avait été un film muet, qui est presque le cas, le film aurait été tout aussi incroyable. Et c'est un film qui donne quasiment envie de faire la révolution.
Alors, ce qui est intéressant avec ce film, parce que Kalatozov, pour moi, c'est un grand réalisateur oublié, en fait. C'est-à-dire qu'on parle toujours de Eisenstein, quand on parle de cinéma russe. Et en fait, je trouve que l'élève dépasse le maître. Enfin, je ne sais pas quel âge ils avaient, s'ils avaient une différence, si Kalatozov est plus jeune que Eisenstein. Mais par exemple, Eisenstein, c'était le roi des gros plans sur les visages. Et je trouve que lui, il fait encore des plus beaux gros plans. Et puis, il y a... vous avez cité beaucoup de plans. Moi, il y a un plan que je retiens, c'est aussi le plan du paysan, là, dans son champ, là. Bah, incroyable ! Incroyable ! Quand il coupe la canne, c'est incroyable. Enfin, il y a une contre-plongée. Et il y a un jeu, il joue aussi très bien, parce que c'est un truc qui n'est pas simple. Il joue très bien avec les contre-jours aussi. Il y a énormément de plans en contre-jour, mais qui sont magnifiques. Hein, voilà. Tu parlais de Scorsese, Thomas. Scorsese, il le dit tout de suite dans les bonus de cette édition Potemkin. C'est lui, d'ailleurs, qui avait... Scorsese, qui avait, comment dire... en gros, qui est un peu à l'origine hein, du retour en grâce de ce film. Lui, il élimine tout de suite la partie propagande du film. Quand on lui parle de la partie propagande, il dit... Oh, bon, il dit, c'est juste l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et il a raison, en fait. Soy Kuba... C'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Déjà, vous avez dit beaucoup de choses, les amis. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Et en plus, dans le rapport qu'entretient l'histoire avec le cinéma, je trouve que c'est aussi un des films de propagande les plus fascinants aussi de l'histoire du cinéma. Parce qu'en même temps, le regard de Kalatozov, il n'est pas sur les Américains, par exemple, au début, là, sur les Américains qui font la fête, tout ça et tout... c'est un regard qui n'est pas totalement accusateur. C'est-à-dire que il regarde en même temps cette forme d'hédonisme quelque part et on comprend qu'il y a des doutes dans la tête de Kalatozov, la manière dont il est filmé. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Voilà. Même si le film a des lourdeurs propagandistes par moment, il y a quand même... Pour moi, c'est vraiment un film immense.
Bah, le personnage incarné par Jean Bouise, déjà, il n'est pas monolithique. Quoi. C'est vrai qu'un personnage qui a des doutes, qui a du mal à suivre ses copains, puis finalement, il se laisse aller. Il n'avait pas l'intention de profiter d'une jeune femme, de sa pauvreté, pour passer la nuit avec elle, etc. etc. Mais il y a aussi ce regard très mélancolique aussi, notamment par l'utilisation d'une voix off qui incarne Cuba. D'où le titre Soy Kuba, par l'intermédiaire de cette voix off aussi, qui est quand même un petit peu un contrepoint aussi à l'effet propagandiste du film, notamment je pense à ce mouvement de grue quand Jean Bouise s'éloigne, se perd dans le bidonville, où là, je veux dire, où est la propagande? Où est la propagande pro-communiste vu qu'on voit les gens dans la misère? Et pas seulement à cause des Américains. Voilà. Il y a des choses comme ça dans le film, très intéressantes. Et de toute façon, Kalatozov voulait faire du Cinoche. Hein.
Et il en a fait, parce que là, on a... On dit toujours, si vous partez sur une île déserte, bah, il faut au moins, dans les films qu'on prend, on est obligé de prendre celui-là. Hein, parce que pour expliquer ce qu'est le cinéma, je crois que Soy Cuba, ça se pose là. Cuba n'est pas un pays immense en superficie. Hein, et ça tombe bien parce que Damien, tu voulais nous parler d'un film, je suis le roi de l'enchaînement, vous voulez parler d'un film qui s'appelle Petit Pays, adapté par Éric Barbier du livre d'un petit phénomène, Gaël Faye, hein, qu'en dehors d'être le sosie officiel de Stromae, est un peu un touche-à-tout de génie, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un grand connaisseur de ce qu'il fait en musique, mais en tout cas, il fait plein de choses. Évidemment, il fait des tubes en musique, il écrit des bouquins qui reçoivent des Goncourt, et il inspire des films. Bon, c'est plutôt pas mal, quand même.
Petit Pays, c'est le dernier film que j'ai pu voir en salle avant le second confinement. Gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka, gahugu gatoyi. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début. Mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye. Petit Pays, c'est le dernier film que j'ai pu voir en salle et j'en suis extrêmement heureux. Comme tu as dit, il est réalisé par Éric Barbier et adapté du roman de Gaël Faye qui a été prix Goncourt des lycéens en 2016. Alors, je suis extrêmement heureux de pouvoir parler rapidement de Gaël Faye dans Culture Prohibée parce que je ne pensais pas que ça pourrait se produire un jour, ce qui prouve que tout est possible. Et c'est un de mes musiciens préférés qui, encore une fois cette année, a été nommé aux Victoires de la Musique. J'ai découvert sa carrière de manière assez drôle en même temps que Donald Glover aka Childish Gambino qui a sorti il y a quelques années This is America. Gaël Faye, je l'ai découvert à travers justement le succès qu'il a eu avec son prix Goncourt et notamment à travers sa lecture qu'il a eu sur France Culture. C'est une œuvre d'abord qu'il faut préciser qui n'est pas totalement autobiographique car il s'inspire seulement de ce qu'il a vécu dans son enfance. Pourquoi je vous parle de musique avant en soi de vous parler du film en soi? C'est parce que le génocide des Tutsis a une importance assez particulière chez moi. C'est que depuis tout petit, j'en ai entendu parler. Et j'en ai entendu parler d'abord à travers la musique, c'est-à-dire à travers Corneille, qui, lorsqu'il a sorti ses morceaux, a parlé de son histoire. Alors, de quoi parle Petit Pays? Le Petit Pays évoque le pays même, c'est-à-dire le Burundi. On y suit l'enfance de Gabriel et de sa sœur, ainsi que de ses parents, un père français et une mère d'origine rwandaise. Il a un groupe d'amis et a une enfance heureuse jusqu'à ce que la réalité géopolitique vienne tout chambouler. La guerre civile burundaise, puis le génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, les acteurs sont absolument géniaux et les enfants portent le film, mais de façon incroyable. Ils sont vraiment époustouflants dans ce qu'ils font et ils le portent y compris dans les moments très durs, ce qui donne au film une puissance et un réalisme assez dingue. On vit le film. On est très proche des films qui évoquent des massacres et des génocides et par moments, j'ai eu les mêmes sensations que j'avais eues devant Requiem pour un massacre. Il y a une scène qui est filmée et qui est très intéressante qui est qu'à un moment, un des personnages évoque justement le génocide qu'il y a actuellement au Rwanda. Et en fait, le personnage commence à parler mais soudain s'arrête et c'est une voix off qui continue à raconter son histoire et la caméra se fiche sur... cette femme, un peu comme un témoignage qu'on aurait dans un documentaire. Et cette scène ne casse pas pour autant l'immersion du film. Ce qui est intéressant, c'est que Il y a deux références qui sont faites à Gael Faye directement dans le film, mais qui sont faites justement uniquement à l'introduction, qui est le début de son morceau Petit Pays, et tout à la fin du film où en fait le morceau est passé. Et je trouve ça intéressant et intelligent de, du coup, de ne pas l'avoir intégré dans le film en soi, même à la scène de fin où on a une version plus adulte. Le film est important car il permet de comprendre et de replonger dans la vie de l'époque et l'horreur du moment ou, simplement ce qui, ou de voir simplement ce qui se passe quand les gens haineux réussissent à diviser un pays.
Après Petit Pays qui relate un, comment dire, des faits tragiques de notre histoire contemporaine, on va passer maintenant à un film qui, comment dire, a des airs lui plutôt de tragédie. Et un film qui traite pas directement de faits réels, mais qui traite d'événements qui font, comment dire, l'actualité depuis maintenant quelques temps, à savoir le sort qu'on réserve aux immigrés, les bavures policières, enfin des thèmes comme ça qui sont abordés dans ce film donc, qui s'appelle Antigone, un film de Sophie Desrapes, qui est un film récent d'ailleurs, Thomas, et dont tu voulais nous parler.
Antigone, c'est une bonne surprise de des films sortis, le peu de films sortis dans les salles en 2020. C'est un film donc canadien de Sophie Desrapes qui a déjà fait 6 ou 7 films auparavant, hein, qu'on connaît pas du tout en France, et qui débarque avec cette Antigone qui est un hymne à la rébellion, un hymne à la rébellion, et qui adapte donc cette pièce Antigone de façon très moderne. Antigone est une jeune femme qui est donc partie de la Kabylie avec ses deux grands frères, sa sœur et puis sa grand-mère quand elle était toute jeune et donc pour vivre au Canada. Et un jour, l'un de ses frères est assassiné, est plutôt tué par un policier et l'autre est incarcéré pour rébellion envers le policier qui a tué l'autre frère. Et donc elle va tout faire pour protéger son frère et sa famille au point de devenir hors la loi. Alors c'est un film qui n'est pas manichéen, hein, qui est assez complexe, je trouve, car on apprend petit à petit des choses sur ces fameux, sur tous les personnages qui ne sont pas tous aussi sympathiques qu'on pourrait le croire au premier abord. Et je trouve que Sophie Desrapes arrive à faire un film assez dynamique, assez complexe, et qui arrive à changer sa mise en scène. Par exemple, elle joue beaucoup sur l'imagerie des réseaux sociaux. C'est très dynamique. Et la façon dont elle utilise la musique aussi, je trouve que le film est assez original. Et pour moi, c'est l'une des meilleures surprises de l'année 2020, avec entre autres Mignonne et System K. Et je pense que pour moi, c'est une grande découverte, quoi. Qui résonne avec l'actualité, avec notamment des immigrés des gens issus de l'immigration qui sont tués par la police dans divers pays du monde, etc.
Il y a aussi le fait qu'ils sont orphelins parce que leurs parents ont été tués par des islamistes qui intègrent encore plus le film dans une actualité. Et dans les débats qui agitent la société occidentale aujourd'hui, mais la société dans son ensemble d'ailleurs, hein, pas que occidentale, mais la société occidentale est celle que nous connaissons le mieux vu que nous y vivons.
Yeah.
vous écoutez Culture Prohibée. C'est pas manichéen, hein. Ça je suis d'accord Thomas avec toi, c'est-à-dire que y compris tu vois que les frères sont pas forcément voilà, on peut avoir des amitiés un peu dangereuses, voilà. Et puis l'actrice est super quoi. Je trouve que enfin vraiment l'actrice je sais pas comment elle s'appelle, je me rappelle plus, je regarde mes notes hein, j'avoue, Naïma Ritchie, elle a vraiment une présence incroyable. Voilà, je crois que c'est son premier rôle à l'écran, elle a une présence incroyable. Et moi, le seul défaut que je reprocherais au film, c'est un petit côté un peu théâtral, parfois. Voilà, le film a un petit côté théâtral, surtout dans les scènes de procès, par exemple. Voilà, je trouve que on essaye un peu de nous... Bah, tu sais, bon, voilà, j'aime pas qu'on essaye de me tirer des larmes, qu'on essaye de me prendre par les sentiments. C'est pas mon truc, quoi, voilà. Moi, j'aime pas ça, mais... par contre, c'est très carré, c'est très bien. Effectivement, je comprends ce qu'il y a pu te plaire, parce que la réalisation est très... est au cordeau, quoi. Il y a une vraie mise en scène. Enfin, il y a un vrai travail, quoi. Voilà, c'est... Il y a de la mise en scène, ça, je pense que c'est indéniable. Et puis, je trouve que la grande idée du film, parce qu'en fin de compte, c'est pas si courant que ça dans le cinéma, c'est de faire de l'immigré le personnage central et d'en faire une sorte de héros mythologique, un peu comme ça. Voilà. Alors, le titre Antigone, c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Et c'est vraiment intéressant, je trouve.
Moi, je suis pas d'accord pour dire que le film est tire-larme, notamment dans les scènes de procès. Je trouve pas, quoi. Je trouve qu'il y a un côté assez réaliste, que ce soit dans la photographie, la façon de filmer. Non, théâtral, je veux bien, parce que c'est l'adaptation d'une pièce. Je pense que c'est plus ou moins voulu. Mais je ne trouve pas qu'il y ait, que le film soit tire-larme.
Antigone, en fait, suit une lignée qui est assez intéressante et qu'on avait eue avant avec Les Misérables de Lydie G, c'est-à-dire l'adaptation finalement de classiques littéraires ou encore plus anciens, c'est-à-dire Antigone de Sophocle ou Antigone d'Anouilh en pièce théâtrale. Et c'est intéressant parce que ça pose la question, est-ce que finalement ces thématiques reviennent par un échec sociétal ou est-ce que c'est des thématiques qui sont malheureusement... éternel. Je suis d'accord avec toi Thomas, qui est que le film saisit rapidement notre attention et ne le perd plus, et malgré le fait que finalement il a notre attention, il se renouvelle à plusieurs moments, notamment avec les passages de rap et l'inclusion des réseaux sociaux pour nous montrer comment la formation aujourd'hui est traitée. C'est très intéressant justement la réécriture qui parle d'immigration, et je trouve que ça nous offre une vision du Canada et du Québec assez dure qu'on n'a pas forcément. Je suis aussi d'accord avec toi, il y a une absence de manichéisme qui est très intéressant et qui rend en fait l'entièreté du tableau très sombre. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple dans le livre, les frères sont accusés d'avoir trahi la cité en travaillant avec l'ennemi, et là ces frères sont accusés dans le film de quasiment la même chose, c'est-à-dire de travailler avec le terrorisme. Et je trouve que c'est une excellente liaison avec justement les questions du passé et les questions d'aujourd'hui. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que finalement on suit une bavure policière, c'est-à-dire que les policiers tentent d'arrêter un des frères et abattent l'autre, et on se retrouve justement sur cette question assez intéressante qui est les policiers disent qu'ils ont un lien avec le terrorisme, mais finalement est-ce que ça justifie de tuer quelqu'un en pleine rue qui finalement se plaignait que son frère soit arrêté de force. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que dans le livre Sophocle, Antigone est condamné pour avoir enterré son frère et est enfermé à vie, et il y a un lien très intéressant qui est me semblait être fait dans le film et dont la fin me remet un peu en question, qui est finalement de comparer le milieu carcéral qu'on y rentre jeune comme finalement une prison à vie de laquelle on ne pourra jamais la quitter. Il y a aussi la confrontation entre plusieurs mondes qui est très intéressante, c'est-à-dire cette vision entre jeunes et vieux et plus vieux qui ont une idée du monde qui doit tourner d'une certaine façon, et les jeunes qui se rebellent. La question aussi des locaux face aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver et comment ils traitent. Et surtout, ce que reprend le thème d'Antigone qui est assez éternel, c'est l'opposition avec ce qui est moral et ce que la loi dit. Parce que Antigone, durant son procès dans le film, répète justement que son frère a été tué par une bavure policière, et pour elle, c'est ça le sens même de son geste, alors que son procès ne repose pas du tout là-dessus, son procès repose sur ce qu'elle a fait.
C'est un film qui prône la désobéissance civile, quelque part, et c'est un film qui nous dit que nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres parce que nous obéissons à des règles et à des lois qui ne sont pas forcément toujours justes, et qui fait qu'on est prisonnier de façon de penser, de voir les choses, etc. Et ça rejoint quelque part les films de Milos Forman dans le sens de l'opposition entre les générations, entre les parents et les enfants.
Pour conclure, parce qu'il faut conclure en un moment, mais je dirais que c'est un film, même si je trouve, moi, je suis désolé Thomas, qu'il y a une petite manipulation des sentiments dans le film, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais qui me parle un peu moins, qui me fait un peu sortir du film, moi je le dis. Hein. Après, c'est un film qui, je trouve, en tout cas, est un exemple assez unique. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on voit peu de films aussi en même temps, parce que bon, bah, malheureusement, il se passe ce qui se passe, on vit dans le monde du Covid. Hein. Mais un exemple assez unique de film qui utilise, en tout cas contemporain, hein, c'est-à-dire de, voilà, très récent, qui utilise le prisme du cinéma de genre, parce qu'en plus, on a une sorte de mélange des genres, là. Hein, on va avoir du mélodrame, du film social, mais on va avoir du thriller, du film policier, même du film d'évasion, du film de prison, du film d'évasion, tout ça. Et est-ce qu'on peut même rentrer film de rap, enfin, voilà, puisque ça existe un peu quelque part, c'est un peu un sous-genre, bon, même si on n'est pas dans Boys in the Hood. Enfin, il y a tout ça, et c'est un des rares films qui utilise, donc, ce que je voulais dire, le prisme de cinéma de genre pour interroger l'histoire contemporaine. En fait, c'est un film en prise avec le monde d'aujourd'hui. Et ça, en fin de compte, c'est assez complexe à faire. C'est pas si évident que ça. Beaucoup de films regardent l'histoire récente. On a parlé de Petit Pays qui regarde l'histoire récente. Mais là, on regarde l'histoire immédiate. Et pour moi, ça, par contre, c'est une qualité assez forte que le film a en termes d'écriture. C'est que, par contre, effectivement, c'est un film assez brillant de ce point de vue-là, dans sa manière de dialoguer avec l'histoire.
Et c'est un film qui est complexe parce qu'il est sans angélisme, sans manichéisme, et quelque part, il est assez inconfortable si on épouse le point de vue du personnage d'Antigone. C'est pas très confortable comme film, en fait.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.